pour terminer cette suite d'interviews qu'on a fait, ceci est la cinquième, j'aimerais venir sur cette question de la transmission et donc venir sur la question de la non-transmission. Je voulais savoir ce que tu faisais de ces auteurs qui commencent la bande dessinée sans rien connaître, entre guillemets, de la bande dessinée. Je me souviens que lorsque tu étais venu intervenir à l'ERGUE, à l'école où je donne cours, j'avais posé la question de savoir s'il fallait, d'après toi, vraiment connaître l'histoire de la bande dessinée pour pouvoir poser un geste pertinent dans le champ de la bande dessinée. Et j'avais senti dans l'auditoire une forme de tension, parce qu'évidemment, comme ils me l'ont dit plus tard, c'était vraiment une question qu'ils se posaient en écoutant le déroulé de ta thèse. Ils disaient, mais si je connais pas bien la bande dessinée, est-ce que je suis autorisé à faire de la bande dessinée ?
Oui, je vais encore être un petit peu fouillant comme je l'avais été devant l'auditoire. Je pense que ce que je voulais à tout prix éviter, c'est peut-être un peu un résultat de cette attention à l'histoire, au patrimoine, le fait qu'on n'arrête pas aussi de ressasser un genre de patrimoine franco-belge ou américain, peu importe. C'est qu'il y a un peu ce risque que ça devienne un impératif, que aussi en école d'art, il y ait ce côté... vous n'êtes pas légitime à faire de la bande dessinée si vous ne connaissez pas Karl Barks et Frank King et Jack Kirby, ce qui serait extrêmement restrictif, extrêmement autoritatif. Et ce que je voulais souligner, c'est que voilà, l'histoire n'était pas là, c'est pas pour avoir une histoire canonique écrasante. Et je pense aussi que pour s'ancrer dans la bande dessinée, ça peut être très, forcément très enrichissant d'avoir une perspective sur l'histoire de la bande dessinée. La perspective historique est toujours extrêmement nécessaire, mais justement parce qu'elle l'amène à relativiser ce rapport à l'histoire. Non pas comme une histoire qui serait figée et qu'on devrait apprendre et qu'il y aurait des grands noms qu'il faudrait absolument connaître ou absolument avoir lu, mais plutôt de pouvoir se situer dans un certain panorama historique, se situer soi-même, prendre des choix, et aussi se dégager d'une espèce d'histoire autonomiste de la bande dessinée où on dirait, voilà, pour faire de la bande dessinée, il faut connaître l'histoire de la bande dessinée, mais aussi aller chercher ailleurs. Donc, c'est un peu le risque d'avoir un genre d'histoire qui sera uniquement focusé sur la bande dessinée, ce qui est un peu le résultat d'une espèce de création historique de la bande dessinée, qu'on la dégage comme un médium avec une histoire, on en fait un peu un médium singulier avec sa propre histoire, qui parfois peut aussi glisser sous le tapis tous les liens que la bande dessinée a eu avec les autres médias. Donc je pense aussi tous les auteurs qui viennent à la bande dessinée avec un autre bagage culturel, un autre bagage médiatique, qui viennent avec des influences d'autres médias, apportent quelque chose de rafraîchissant ou d'intéressant pour la bande dessinée. Donc il ne faut pas voir cette histoire comme quelque chose de figé, d'extrêmement canonique, même si la transmission se base sur un genre de canon qu'il faut connaître, mais justement pour pouvoir déconstruire et réouvrir. Je pense que c'est ça qu'il faut un petit peu donner aux étudiants. C'est cette capacité à avoir une réflexivité historique et pas simplement à dire « j'ai lu tous les Michel Vaillant
». Comme ta thèse s'intéresse au phénomène de la transmission aux États-Unis, mais que tu connais assez bien la scène francophone et européenne, est-ce qu'il te semble qu'il y a une différence dans cette approche d'une bande dessinée démarrée sans connaissance ou d'un rapport à l'histoire ?
C'est à la fois similaire et différent. Je pense qu'il y a d'une certaine manière, l'aimant historique aux États-Unis est peut-être plus fort dans la bande dessinée mainstream ou pour ce qui est de la bande dessinée sérielle de super-héros ou enfin des grands Marvel et DC. Il faut connaître un peu le background aussi sériel. Enfin, on s'ancre dans un univers diégétique qui est très compliqué, qui parle à des fans aussi. Enfin, d'ailleurs, ils appellent ça la Bible. Hein. Tous les auteurs qui commencent à reprendre l'histoire d'un personnage ou qui doivent travailler avec un personnage reçoivent cette Bible du personnage, qui sont tous les éléments qu'ils doivent connaître pour avoir une espèce de cohérence sérielle et narrative à l'univers dans lequel il commence à travailler. Dans cette optique-là, il y a un espèce d'impératif historique. Et d'un autre côté, il y a une plus grande amnésie de l'histoire de la bande dessinée aux États-Unis jusque dans les années auxquelles je m'intéresse dans la thèse, qui sont les années 90-2000, où il y a vraiment une politique de réédition, ce qui est dû à une différence de support où le support livre aux États-Unis est apparu beaucoup plus tardivement et où du coup il n'y a pas eu un objet, on va dire, de canonisation, de transmission stable comme il y a eu en Europe. Je pense qu'en Europe, le rapport à l'histoire est à la fois un petit peu plus libre, on va plus souvent pencher aussi vers des autres styles, il y a une plus grande ouverture graphique à l'histoire de l'art en général et à la littérature, etc. Surtout dans les années 90. Enfin, quand on compare les deux mouvements aux États-Unis et en francophonie, il y a une plus grande diversité graphique en Europe qui contraste avec un genre de tradition aux États-Unis où on dessine souvent, même sans se référer particulièrement à un auteur, on va souvent dessiner dans un style soit qui se réfère au style des bandes dessinées publiées dans la presse quotidienne, enfin les newspaper comics. Je pense à ce que fait par exemple Sammy Arkham, James Storm, des gens comme ça, qui ont quelque chose d'un style qui est à la fois très personnel, mais aussi très ancré dans un certain sens de la tradition. Enfin, je pense Noah Van Sciver, des gens comme aussi Charles Forsman, c'est aussi un bon exemple de ça, et il y en a encore un autre avec les gratte-ciels.
Joshua Cotter.
Oui, voilà, c'est ça, ouais, exactement, Joshua Cotter. Donc il y a un peu toute une génération d'auteurs qui ont un peu ce style, qui vient aussi en partie de Robert Crumb, qui regardait beaucoup Segar et ce genre de style, enfin Chester Brown, c'est aussi. Donc il y a toute une génération d'auteurs qui ont été, entre les années 90 et jusqu'aujourd'hui, qui ont opéré ce renouvellement, enfin, y compris Daniel Klaus, Chris Ware, qui sont dans une forme de tradition historique sans être hyper citationnel non plus. Tandis qu'en Europe, enfin, tout ça c'est des grandes généralisations forcément, mais il y a eu un import plus signifiant de l'histoire de l'art, d'un renouvellement par la gravure, par l'utilisation de techniques, enfin la couleur directe, etc., qui sont des mouvements qui ont été moins prégnants aux États-Unis, j'ai l'impression, de prégnant de manière différente, et on s'est gardé un certain classicisme tout en ayant une certaine innovation, et où en Europe, quand il y avait citation, ça devenait des citations plus ouvertement citationnelles. Donc le renouvellement s'est pas fait dans un genre de continuité de la ligne claire, on va dire. Voilà, ça c'est un peu, je pense, la différence en gros trait.
Dans la foulée un peu de cette question sur faut-il avoir un background, qu'est-ce que tu penses de ces gens qui débarquent dans le médium et qui commencent à travailler en se revendiquant justement de pas tout ça? Je pense par exemple à des personnages comme Antoine Marchalot qui confessait lors d'interviews qu'il avait démarré son boulot en n'ayant aucune idée de la bande dessinée, n'est pas lui les indépendants, il connaissait les Tintins et les Spirou qui étaient dans la bibliothèque des parents et c'était à peu près tout. Et il se découvre auteur de bande dessinée pendant le travail. Est-ce que pour toi, il s'agit d'une erreur ou d'une opportunité?
Je pense que c'est une opportunité. Je ne pense pas qu'il y a jamais d'erreur à ne pas connaître l'histoire de la bande dessinée. Sinon, on serait dans un espèce de microcosme assez dégénératif sur le long terme. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui viennent avec de nouvelles inspirations. C'est justement une preuve que la bande dessinée a beaucoup évolué, qu'on arrive à faire de la bande dessinée sans venir avec un background de bande dessinée.
Une chose qui m'est revenue à la fin de la lecture et en réfléchissant un peu à ce que tu as amené dans la thèse, c'était le fait que les auteurs entreprennent d'une manière qui est soit consciente, soit inconsciente, on en a parlé un peu, ils se font les transmetteurs de leur propre médium. Mais ta thèse parle assez peu des intentions de faire ça d'une part et de la réception qui en est faite. Alors commençons un peu par les intentions. Est-ce que pour toi il y a quelque chose de l'ordre d'une intention de la part de ces auteurs de vraiment transmettre l'histoire de la bande dessinée?
Dans tous les auteurs que j'ai analysés, sur lesquels je me suis penché dans le cadre de ma thèse, il y a une intention de transmission qui n'est pas toujours soit directe, elle est souvent opportuniste d'une certaine manière, ou c'est un peu l'occasion qui fait le larron, on va dire. Donc c'est un peu par un genre de symbiose avec aussi le côté institutionnel que des opportunités se font pour faire ce travail de transmission. Donc aussi de par la reconnaissance aussi qu'ils reçoivent dans le monde de la bande dessinée, qui sont un peu donnés cette position pour se faire les porte-parole d'une histoire de la bande dessinée. Mais ce n'est pas un rôle qu'ils endossent de façon purement gratuite ou opportuniste. Je pense qu'elle correspond aussi à un désir de transmettre une certaine histoire qui était déjà évident dans leur travail. Donc c'est un peu une symbiose qui s'est faite de façon assez naturelle. Après, ça peut aussi se faire simplement de façon plus indirecte. Le cas de Charles Burns est un cas où Charles Burns endosse très rarement ce rôle de diplomate public ou de porte-parole public d'une histoire à la bande dessinée, mais dans son rapport au dessin, dans son rapport à la création, il y a quelque chose de très marqué historiquement, qui fait un peu davantage une forme de transmission indirecte.
Et si on parle à travers ça des valeurs, c'est-à-dire de pourquoi est-ce qu'on transmet? D'après toi, est-ce qu'il y a une importance à faire ce travail? Est-ce que c'est nécessaire? Dans le fond, on pourrait tout à fait se contenter d'un travail de la bande dessinée qui serait toujours dans l'immédiateté, enfin, qui n'aurait pas besoin de s'appuyer sur l'histoire. Le fait de dire que l'histoire est importante est déjà en soi porteur de certaines valeurs. Donc, du coup, pour toi, quelles sont les valeurs importantes d'une transmission du patrimoine dans la bande dessinée et quel en est l'écho que tu trouves chez les auteurs que tu as abordés?
Ouais, c'est vraiment une question très compliquée. La question de la valeur est quelque chose qui traverse toute la thèse, parce qu'effectivement, on fait ça parce qu'on trouve une valeur dans les choses du passé. On transmet quelque chose que parce qu'on pense que ça vaut la peine de faire l'activité, de le transmettre, d'investir son temps dans cette transmission. Pour le lire de façon strictement sociologique, on dira que c'est un capital symbolique qui transmet aussi. Donc la création d'un patrimoine, y compris pour les éditeurs, c'est aussi l'investissement d'un capital symbolique, parfois d'un capital économique, surtout pour des maisons comme Fantagraphics et Journey Quarterly. Fantagraphics qui va avoir ce lien avec Schultz qui est une assise commerciale aussi très intéressante. Et de la part de Journey Quarterly, c'est tout ce qui est des rééditions de Karl Barks et Don Rosa, etc., qui entretient un lien, en fait, qui font d'eux un des licenceurs de Disney, ce qui fait aussi une assise commerciale intéressante. Donc c'est à la fois un capital économique, c'est aussi un capital culturel et symbolique très grand, qui fait partie de leur positionnement dans le champ de la bande dessinée. Mais ça, c'était pas l'optique. C'est une optique qu'il faut absolument reconnaître, parce que c'est plus la lecture bourdieusienne qui est important à garder en tête. Mais ce n'est pas l'angle que j'avais abordé principalement, parce qu'elle me semblait que parfois on arrivait à une situation où les positions sont distribuées d'avance. Donc en fait, on n'apprend pas grand-chose en disant « Voilà, Chris Ware va rééditer Frank King pour se positionner dans l'histoire, accroître son capital symbolique, se donner une histoire. » Enfin, tout ça est bien sûr vrai, mais en même temps, on le sait déjà d'une certaine manière. Ça n'est pas... ça ne nous apprend pas énormément sur qu'est-ce qui est en jeu dans le processus de transmission.
Et pourquoi cet auteur plutôt qu'un autre?
Exactement, exactement. Donc il y a un peu... moi, ce qui m'intéressait, c'est d'essayer de voir comment, dans le geste concret de transmission, donc dans les matérialités précises qu'ils utilisent, dans les contextes matériels dans lesquels se déploie cette transmission, donc que ce soit par la réédition, que ce soit dans un contexte d'exposition, que ce soit par leur copiage ou des pratiques plus créatrices, à chaque fois, il y a un rapport à la valeur qui est un petit peu différent. Et c'est par ce geste aussi que se construit une certaine valeur, qu'on crée aussi de la valeur par ce geste-là. Que ce soit une valeur plus d'attention, ça reste un petit peu fouillant. C'est une question que j'ai pas complètement résolue, je pense, dans ma thèse, mais qui m'intéresse. Enfin, c'est un travail de valorisation, mais ce qui m'intéressait, c'était de comprendre exactement comment ce travail de valorisation se faisait. Après, sur la question qui était aussi la tienne, c'est comment est-ce que ça aboutit au final, ce travail de valorisation. Ça reste un peu un point d'interrogation.
Oui, ça. Est-ce qu'on peut dire que quelque chose a été fait dans l'espace-temps que tu définis dans ta thèse, donc qui part plutôt de la fin des années 90 pour aller jusque des pratiques quasiment contemporaines? Je crois que c'est... Est-ce que ce travail de patrimonialisation, donc de transmission d'un patrimoine, est-ce qu'il a été effectif du côté du public? Puisque là, tu parles de la manière dont les auteurs se saisissent de ce patrimoine, mais dans l'adresse qu'ils font au public, est-ce que ça a été reçu, ou est-ce que c'est quelque chose qui reste finalement interne au milieu des auteurs donnent aux autres auteurs des références qui leur permettent d'avancer dans leur propre travail?
Ça, je pense, c'est vraiment une bonne question. C'est un processus qui doit se mesurer sur des échelles plus longues, et donc on sera seulement évalué dans une dizaine d'années, je pense. Ceci dit, il y a quand même certaines traces certains indices qu'on peut déjà relever sur cette période de 20-30 ans. Le cas que j'aimais bien mentionner, c'était celui de Cole Closser, qui est un auteur d'une génération plus jeune, et qui en fait découvre ces bandes dessinées des années 30, des années 20-30, par le biais de ces auteurs des années 90. Donc là, on a un cas très évident de transmission, entre guillemets, réussie, mais qui est déjà enfin, dans une transmission d'auteur à auteur, comme tu dis. Et d'ailleurs, le fait que sa carrière n'est pas non plus continuée, enfin, c'est un auteur qui est un petit peu arrêté, je pense qu'il donne cours en école d'art, mais il n'a plus publié depuis de nouvelles bandes dessinées, c'est aussi un signe que c'est une transmission qui n'a pas marché à 100% peut-être, ou que ça n'est pas un créneau qu'on peut continuer à exploiter de façon vivace. Et en même temps, il y a aussi le signe de toutes ces rééditions qui ont, enfin, qui sont maintenant une valeur stable de l'édition américaine, mais qui sont restreintes sur une niche extrêmement petite. Donc toutes les rééditions qui ont commencé dans les années 2000 voient simplement leur agenda souvent espacé. Les volumes deviennent plus chers parce qu'ils savent bien que voilà, les gens qui ont acheté peut-être le premier volume de Gasolina, de la réédition de Gasolinali, se sont dit quand même, c'est quand même long à lire ces trucs, j'ai peut-être pas besoin d'avoir tous les volumes qui sortiront. Donc les éditeurs en fait se sont restreints sur le public qui achète déjà ces bouquins, en augmentant les prix parce qu'ils savent que les gens qui l'achèteront vont mettre les sous pour, mais sans ouvrir à un plus large public. Donc et de même, tout ce qui est bibliothèque, et ça c'est une des questions cruciales, enfin, que m'avait aussi posé Jared Garner lors de la défense, c'est le fait que les bibliothèques aux États-Unis n'ont jamais repris ce marché, quoi. Donc les éditeurs n'ont jamais su installer les rééditions dans les bibliothèques, que ce soit universitaires ou autres, et ce qui est aussi une partie du problème, ce qui n'a pas généré une attention, par exemple, académique ou universitaire. Enfin, il y a quelques cas qui pointent quand même du doigt que ça a fonctionné, mais c'est vraiment très limité au final. Donc, c'est pas une transmission qui a eu une. Qui a complètement changé, on va dire, le cours de la bande dessinée, je pense.
Quel constat un peu amer. Alors, peut-être maintenant qu'on a fait un peu le tour, il y a encore des milliers de choses à dire, mais je voudrais maintenant faire un dernier volet autour de la question de l'écriture de cette thèse elle-même. Alors, on l'évoquait dans la première interview, une thèse, c'est un travail important, chronophage, épuisant. Généralement, on termine sur les genoux sans savoir si ça en valait vraiment la peine. Enfin, où est-ce que tu en es par rapport à ça? Maintenant, tu as terminé cette thèse. Est-ce qu'elle t'a vraiment déterminé, fait reconnaître aux yeux de tes pairs comme le spécialiste de la transmission de patrimoine dans la bande dessinée? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu te sens coincé?
Non, 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 ça c'est ça va. Je pense que ça. Bon, évidemment, j'ai les collègues qui savent quelle thèse est-ce que j'ai fait, et qui du coup, une fois que la thèse est terminée, ça crée aussi un effet de. Ça entérine un peu ce fait-là, donc on est un peu lié à ce sujet, mais tout en le courant de la thèse, et c'est d'ailleurs pour ça que ça a traîné 5 ans. Je me suis aussi un peu consacré à des autres choses. J'ai participé à beaucoup de projets collectifs sur différents sujets, donc j'ai un peu diversifié mon catalogue de publications, si on peut le dire comme ça, ce qui fait que je pense pas être restreint dans ce rôle-là. Ce qui est un petit peu étrange, une fois la thèse passée, c'est qu'à la fois il y avait ce moment d'immersion intense dans un seul sujet, qui a ensuite suivi par un autre projet sur un sujet assez différent, pour lequel en parallèle on doit continuer à exploiter le filon de sa thèse d'une certaine manière, qui génère certaines invitations, certains projets. Qui font suite à la thèse. Et donc c'est un petit peu ce micmac de différents projets qui sont pas tout à fait dans le même créneau, qui sont un peu difficiles à gérer.
Oui, parce qu'on a parlé de l'écriture de la thèse elle-même, mais dans la foulée de l'écriture, il y a donc la défense qui suit généralement de quelques mois, et ensuite généralement une exploitation qu'on espère un peu riche de ce qu'elle a fait. On espère toujours en tant qu'académicien qu'il va y avoir un peu d'impact, et cet impact qui se mesure par des publications, des invitations à des colloques. Et tu as reçu un peu de suite à ce travail de thèse?
Un petit peu. L'impact, on va dire, viendra une fois que la thèse sera publiée, donc là c'est en cours, ça sera en cours de publication. Normalement, ça devrait être publié en 2022 ou en 2023 en anglais. C'est là qu'il y a un peu le verdict ou le moment de retomber parce que c'est à ce moment-là que viennent les comptes rendus, enfin le jugement extérieur public qu'on reçoit sur son bouquin, le compte rendu. Donc pour ça, c'est un peu une expérience qui doit encore venir. Ce qui est un petit peu difficile, c'est justement cet écart entre le moment d'immersion intense dans le sujet et après cette espèce de distance avec l'objet produit dans lequel on n'est plus complètement immergé et qu'il faut pourtant valoriser ou autour duquel il faut parler, enfin un peu comme on l'a fait ces 5 derniers mois et où du coup il faut essayer en fait, de rebroder un espèce de fil rouge qui tient bien la route et qui soit aussi parfois un peu simplifier son propos. Et ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai pas encore bien appris à faire. C'est vraiment condenser la thèse dans des points très clairs et très impactants. Mais bon, voilà, ça c'est un peu une frustration, je pense, normale entre avoir cet argument un petit peu complexe qu'on essaye de préserver comme ça et en même temps avoir quelque chose d'assez clair qu'on puisse communiquer tout en étant loin de ce moment de recherche. Donc c'est un peu spécial. Ouais.
À la suite d'une thèse, on peut être invité à écrire un texte sur tel auteur, comme préface, comme postface, ou intervenir dans un colloque dans lequel un des sujets de ta thèse est évoqué. Et là, il y a un peu de choses qui pourraient se faire de ce côté-là, tu crois?
Oui, tout à fait. Ça, c'est toujours. Je pense aussi la transmission universitaire est aussi assez lente. Donc, pour moi, ce n'est pas l'impact se mesure sur le long terme. Donc, j'espère que la thèse sera citée, utilisée, reprise, contestée, etc. Donc, qu'il y a un certain argument qui se déroule autour de ça.
Tu parles de deux temporalités différentes. C'est d'une part, on écrit et on possède son sujet quelque part. À un moment donné, à la fin de la thèse, quand même, on le possède. Et puis, à un moment donné, on lâche cette chose et puis on se dirige vers d'autres choses. Et tu parlais du temps long de la thèse, dans lequel il se peut que dans 2, 3 ans, quelqu'un vienne contredire certains points de ta thèse et t'embarque dans une de ces joutes universitaires. Sauf que, de ton point de vue, tu seras déjà ailleurs dans ta vie. Et donc, ça peut poser des problèmes de position. Dans le fond, à un moment donné, il faut le dire, on s'est éloigne d'un élément de thèse. Je crois que tu crains un peu ça pour les années futures.
Oui, c'est très difficile de devoir réagir ou de prendre position sur quelque chose qui semble déjà vieux d'une certaine manière. Comme tu disais, c'est aussi une forme de lâcher prise. Et une fois, enfin, il y a plein de choses à critiquer dedans qui doivent être critiquées. Et ça fait partie du processus aussi de discours scientifique. Et ça n'est pas que le fait d'être critiqué demande forcément une réponse, soit vraiment être mené à un débat ou à un match de catch, mais évidemment on a envie que ça soit reprise de façon un peu pertinente et que ça génère quelque chose de productif plutôt que simplement ça soit jeté de simplement comme ça. Mais j'espère que ça pourra ouvrir sur de nouvelles questions. Enfin, je suis curieux de voir comment ça sera repris.
On parlait de postface, de préface, d'intervention. Est-ce qu'il y a déjà des choses que tu as fait qui sont pour toi la directe continuité de ce travail-là?
Il y a quelques, oui, j'ai quelques invitations d'écriture enfin, dans des ouvrages collectifs qui font partie, qui sont un peu une extension du travail où je dois résumer en fait en un chapitre la totalité de ma thèse ou plus ou moins. Donc là, je prépare un chapitre un peu de cet ordre-là. Il y aura les rencontres internationales de la bande dessinée à Angoulême qui était prévue en octobre, enfin, ou en mars du premier confinement. Et donc, qui avait été repoussé plus 2 ou 3 fois. Et donc, le fait qu'ils aient été repoussés, entre-temps, ma thèse a été défendue et je suis revenu sur le radar des gens qui organisent ces rencontres. Et donc, je suis invité à participer à une table ronde sur le rapport des auteurs au patrimoine de bande dessinée avec différents intervenants et intervenantes. Et donc, pour ça, je suis content. Parce que c'était le sujet de la thèse et les rencontres internationales sont consacrées au patrimoine de la bande dessinée en général. Donc, en termes de recherche, c'est extrêmement intéressant parce que c'est des rencontres qui unissent à la fois chercheurs, artistes, éditeurs, aussi un côté, enfin, c'est en France, c'est très. Je pense qu'il y a toujours un ministre ou un député, enfin, donc c'est très gouvernemental ou d'une certaine manière. Donc, je suis assez curieux de voir des échanges qui résulte là-dessus, parce que c'est aussi la Cité de la BD qui organise ce discours-là sur la patrimonialisation, qui prennent eux-mêmes à bras-le-corps. Donc c'est quelque chose d'intéressant à observer à la fois avec un pied dedans et un pied dehors.
D'accord, tu travailles entre-temps sur un autre projet à Gand, comme on l'a dit. Et est-ce que tu peux nous dire un peu s'il y a une articulation ou pas entre ce que tu es en train de faire maintenant et ce travail que tu as mené, ou si tu es passé à tout à fait autre chose, et est-ce que tu peux nous en parler un peu?
C'est un peu entre les deux, donc c'est très éloigné de ma thèse. Ça porte donc sur le dessin d'enfants dans la bande dessinée francophone, donc c'est à la fois un corpus très différent, c'est beaucoup plus historique. Donc j'aimerais bien me pencher davantage sur les années 40, 50, voire 60. Enfin, c'est encore un petit peu flou, il y a encore beaucoup de travail à préciser les choses. C'est dans le cadre donc d'un projet d'ERC, donc un projet européen, enfin financé par l'Europe et dirigé par Maïn Ahmed à Gand, et qui porte sur en fait, l'enfance, la représentation de l'enfance et la bande dessinée pour enfants en Europe. Donc un peu comprendre quel rôle la bande dessinée a joué dans les différentes conceptions culturelles de l'enfance en Europe. Donc c'est déjà quelque chose qui est davantage de l'histoire culturelle que vraiment une recherche sur la bande dessinée. Enfin, avec la bande dessinée au cœur du propos, mais c'est davantage aussi voilà, historique. Et donc c'est un corpus très différent que mon corpus de thèse. Ça ne s'intéresse pas directement à la question du patrimoine, mais il y a quand même cette question en filigrane, à la fois une forme d'appropriation d'une culture graphique. Donc je m'intéresse aussi à la façon dont les enfants s'approprient leur lecture. Donc comment est-ce qu'ils vont redessiner leur lecture, comment est-ce qu'ils vont copier des personnages, comment est-ce qu'ils vont faire leur propre bande dessinée. Et donc tout ça fait partie d'une certaine forme de transmission aussi. Donc je m'intéresse aussi à des formes de transmission familiale, donc tout ce qui est par exemple bibliothèque transmise. De génération en génération, qui sont des formes de mémoire qui sont assez indirectes en fait, donc qui sont des circulations non officielles, mais qui sont très ordinaires et très très courantes. Donc là, en fait, le fait qu'une bande dessinée, comment est-ce qu'on hérite d'une bibliothèque de bande dessinée lue par ses parents, par exemple, ce qui sont des questions qui ne sont pas difficiles à répondre de façon empirique. Enfin, on n'a pas beaucoup de traces concrètes pour comprendre ce genre de transmission. Donc, ce que je dirais, ce qu'il y a de commun entre ces deux recherches, même si ce projet-là est encore très. Voilà, c'est toute la réflexion sur les archives que j'avais pendant ma thèse m'a beaucoup intéressé. C'est un peu dans cette optique-là aussi que je voulais me pencher sur quelque chose où on travaille avec des archives qui sont aussi plus. Où il faut plus tâtonner justement pour constituer à la fois son propre fonds d'archives, un petit peu en cherchant à droite à gauche, parce que voilà, les dessins d'enfants, c'est pas quelque chose, enfin surtout les productions enfantines, c'est pas quelque chose qui est conservé de façon systématique, même s'il y a des institutions qui en gardent, etc. Donc tout ce qui est de la réflexion sur la conservation, sur l'archive, m'ont aidé enfin, ou m'aident dans le processus méthodologique. Et d'autre part, je pense qu'un peu le lien qui m'intéresse en général, c'est un petit peu ce qu'on décrit aujourd'hui, enfin, par exemple dans le monde de la photographie, comme tout ce qui est des pratiques vernaculaires ou des pratiques ordinaires de la bande dessinée. Donc, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que les gens en fait, s'approprient leur lecture. Et ça, que ce soit par le biais d'un auteur qui. En fait, le rapport à l'histoire de la bande dessinée, aussi un rapport de lecture. Qu'est-ce qu'on fait avec ces lectures? Comment est-ce qu'on intègre quelque chose qu'on a lu et qu'est-ce qu'on en fait par après? C'est un petit peu ce rapport qui m'intéresse, que ce soit des auteurs, des lecteurs normaux, que ce soit des enfants. C'est un petit peu ce phénomène en fait, de circulation, de transmission, d'appropriation. C'est ces logiques-là qui m'intéressent, et ce qui m'intéresse le plus. Ce sont quand c'est logique, enfin, ce sont quand ces logiques sont vernaculaires ou quand elles sont dans un contexte plus ordinaire et pas dans un contexte plus institutionnel. Enfin, après, le contexte ordinaire est forcément institutionnel aussi, c'est pas que il est complètement libre ou il faut pas non plus romantiser ce genre de pratique, Mais voilà, c'est encore flou, mais je sens qu'il y a comme une certaine, il y a une certaine forme de raisonnement qui fait sens, mais il faudra encore un peu rationaliser sur les années à venir.
Est-ce que tu vas t'armer de sociologie et d'autres pratiques, anthropologie, etc., autour de ça?
Oui, donc c'est plus, bon, sociologiquement, ça sera pas aussi méthodique, on va dire, mais je lis beaucoup de ce qui, enfin, des approches plus historiques ou plus anthropologiques sur l'enfance, sur l'histoire de l'enfance, qui du coup nourrissent aussi de façon différente le raisonnement. Mais oui, il y a encore beaucoup de travail.
Ok, et enfin, pour terminer ceci, je te poserai la question de savoir si tu penses que le travail de chercheur est un travail à vie ou si tu penses que, en fait, on devrait à un moment donné faire de la recherche puis à un moment donné faire autre chose.
C'est une très bonne question. Je n'ai pas tout à fait la réponse là. Bon, évidemment, le monde d'aujourd'hui nous demande souvent d'avoir un genre de plan de carrière assez stable, mais l'université est extrêmement compétitive, surtout aujourd'hui. Du coup, c'est toujours un peu la question de. Enfin, c'est des conditions de travail très. Très favorable, on est assez gâté, on va dire, dans les conditions de travail, mais surtout, enfin, dans mon cas et dans le cadre du mandat de post-doctorant, c'est très confortable, mais c'est sur des données, des durées limitées. Donc, dans 2 ans, le contrat se termine et il faut trouver autre chose. Et cette recherche un peu incessante, fait que ça maintient un peu un précariat. Qui a très peu de stabilité et qu'on a un peu du mal à établir un genre de progression qu'on sait que peut forcément être interrompu ou qui force un petit peu à aussi être très mobile, à être très flexible, à pouvoir changer d'université, aller à l'étranger, etc. Et ça n'est pas forcément facile à vivre. Donc, oui, pour moi, c'est un peu. On verra où ça ira. On peut aussi faire autre chose.
C'est Andy Warhol qui disait que pour réussir dans la vie, il faut plus d'un tour dans son sac et plusieurs sacs. Et toi, quels sont les autres sacs dont tu crois disposer pour pouvoir affronter l'avenir?
Ça, c'est une bonne question. Je crois pas avoir d'autres sacs, c'est ça le problème.
Eh bien, on espère que ce sac est grand alors. Bon, voilà, je te remercie pour le travail que tu as fait, de la communauté de la bande dessinée, te remercie pour ce travail, pour t'être penché un peu sur des périodes relativement récentes et pour continuer à le faire. Je sais que tu continueras à aller dans les festivals et t'intéresser au boulot et à la jeune production. Donc, on espère te retrouver bientôt pour discuter un peu des premiers éléments de ce travail sur l'enfance et la transmission patrimoniale, familiale, etc. Ça a l'air d'être assez intéressant et scabreux et assez large dans les outils que tu vas devoir convoquer. Donc ça nous intéresse beaucoup. Et voilà, je te remercie encore et puis à bientôt.
Oui, merci Stéphane pour tout ton travail de transmission aussi de ma thèse. Et merci à Grand Papier, évidemment.